enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, c'est Pâques, c'est le dimanche de Pâques. C'est vrai? Ça veut dire quoi, Pâques? Pour certains, Pâques, c'est les petits œufs en chocolat, c'est les poules, c'est les lapins, c'est la ferme de Pâques et je ne sais pas quoi encore. Mais pour nous, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Amen. 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 Comment ils disent à la jeunesse? Il est vivant. Ah, après c'est quoi? Qui ça? C'est bon. Il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous êtes vivant ce matin? C'est vrai? Notre Dieu, premier point, notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. On trouve l'expression « Dieu vivant » 29 fois, et on trouve l'expression « l'Éternel est vivant » 56 fois. Et à bien des reprises, bien souvent, on voit les prophètes et les hommes de Dieu qui commencent toute déclaration par « l'Éternel est vivant ». Et après, ils font une déclaration. Ils disent « L'Éternel est vivant, et voilà ce qui arrivera. L'Éternel est vivant, alors je veux faire telle et telle chose. » Ce qui les motive, ce qui les encourage, ce qui leur donne de la force, c'est de savoir que Dieu est vivant. Est-ce qu'il y en a qui savent ce matin que Dieu est vivant? Amen. Parce que Dieu est vivant. Ça va, il y a de la vie ce matin, il y en a assez? Bon. Parce que Dieu est vivant, il entend. Regardez, Nombre 14, 28, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je suis vivant, dit l'Éternel, et j'entends. » Il y a bien des statues qui ne sont pas vivantes et qui n'entendent rien. Ne perdez pas votre temps à aller parler à une statue. Ça ne sert à rien, elle ne vous entend pas. Ne perdez pas votre temps à aller parler à un mort. Ça ne sert à rien. Il ne vous entend pas. Je sais que pour beaucoup qui passent par des temps de deuil et de souffrance, ça soulage de se dire on va aller au cimetière, on va aller devant la tombe et on va parler. Comme pour dire, parce que l'absence est trop difficile et on parle aux morts. C'est vrai que dans la conception populaire, et beaucoup maintenant disent, mais tu peux parler, il t'entend. Non, il ne nous entend pas. Mais pour ceux qui croient, nous avons l'assurance que nous les retrouverons. Mais aujourd'hui, celui qui nous entend, c'est celui qui est vivant. Il est marqué sur la grande Bible qu'on trouve à l'entrée de cette église, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Parce qu'il est vivant, il entend. Mais comprenez qu'il entend tout. Parce que là, dans le verset de Nombre 14, 28, où on dit « Alléluia, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles », on dit « C'est bon ça, on demande, Dieu nous entend, ça rentre dans le creux de ses oreilles et il fera ainsi ». Mais dans ce contexte-là, ce qu'il a entendu, ce n'était pas des bonnes choses. Mais il l'a entendu aussi. Comprenez que Dieu entend lorsque l'on crie à lui. Dieu entend lorsqu'on appelle et quand on cherche sa face et qu'on dit « Seigneur, au secours !» Il nous entend. Mais il entend aussi lorsqu'on dit toutes sortes d'affaires, lorsqu'on fulmine, lorsqu'on chiale, lorsqu'on proteste, lorsqu'on est mécontent, lorsqu'on a toutes sortes de colères au plus profond de nous-mêmes. Il entend aussi. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu est vivant et qu'il entend? Vous savez, des fois, il y a des choses que l'on dit, mais on souhaite que les personnes ne les entendent pas. Vous savez, on parle de quelqu'un, il est loin, là, il ne va pas m'entendre, tu sais. Là. Tout d'un coup, on est surpris, ah, c'était là, tu ne nous as pas entendu. Mais avec Dieu, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se mettre à l'écart et aller un peu plus loin en disant, là, on va se mettre loin de Dieu et on va pouvoir dire toutes nos affaires, on va pouvoir faire toutes sortes de choses. Il ne nous voit pas, il ne nous entend pas. Si, il vous voit et il vous entend. Et comprenez que quand on dit à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, il nous entend. Quand on dit, Seigneur, je veux vivre pour toi, comme ces enfants qui chantent et j'ai décidé de suivre Jésus, est-ce qu'il y en a ce matin qui peuvent dire, moi aussi, un jour, j'ai décidé de suivre Jésus. Et quand on fait de telles proclamations, Dieu nous entend. Mais quand on va pour renier le Seigneur, tout comme l'apôtre Pierre va le faire malheureusement, Dieu entend et voit là aussi. On peut se réaliser ce matin que Dieu est vivant, oui. Parce qu'il est vivant, il nous entend, il y a de l'espoir. Mais ça doit nous amener aussi à un respect, à une crainte de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi devant Dieu. Deuxièmement, parce que Dieu est vivant, il agit. Parce que Dieu est vivant, il agit. Josué 3:10, Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que Dieu est vivant au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les canaux, ainsi de suite. » À ceci, vous reconnaîtrez que Dieu est vivant. Voyez-vous que bien des gens, et peut-être que certains sont comme ça ce matin dans ce lieu, en disant, bon, d'accord, Dieu est vivant, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Comment est-ce que je peux en être sûr? Comment je peux avec assurance et certitude dire, c'est vrai, Dieu est vivant? Eh bien, Josué dit, à ceci, vous allez reconnaître que Dieu est vivant au milieu de vous et qu'il accomplira ses promesses. Et comment pourront-ils savoir que Dieu est vivant? Parce qu'il va agir comme quelqu'un de vivant. Parce qu'il parle, parce qu'il entend, oui, mais parce qu'il parle, parce qu'il agit, parce qu'il répond. Est-ce qu'il y en a ce matin qui savent que Dieu est vivant, qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont été bénis, et qui peuvent dire, c'est vrai, c'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de croyance ou de philosophie, c'est pas je jette ma prière en l'air et puis ça me soulage et puis il arrive rien. Non, avec Dieu, il arrive des choses. Avec Dieu, il agit, il répond à nos prières. Il y a des miracles. Est-ce que vous croyez aux miracles encore aujourd'hui? Parce que Dieu est vivant, on peut croire aux miracles. Dans le psaume 42, il est dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Mon âme a soif de Dieu, comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de Dieu. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont soif de Dieu? Mais notez bien qu'il est dit du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Non pas mon âme a soif de religion. Mon âme a soif de théologie. Mon âme a soif de tout un affaire. Non, ce n'est pas de culture d'église dont il s'agit ici. Il s'agit du Dieu vivant. On a besoin de choses vraies. On est dans un monde où il y a tellement de mensonges, où il y a tellement de tromperies, où il y a tellement d'arnaques, que des fois certains sont soupçonneux, même par rapport aux choses de Dieu. Et c'est vrai aussi, il faut reconnaître que bien des religions ont amené les gens à être déçus et à se détourner de Dieu. Et des gens étaient sincères dans une religion, et puis finalement ont été comme trompés. Et se sont dit, mais où est Dieu dans cette affaire? Si votre âme a soif du Dieu vivant, Dieu est celui qui veut se manifester à votre cœur. Et gardez cette soif, il veut vous désaltérer. Jésus a dit, vous tous qui avez soif, venez à moi. Il est celui qui attire ceux qui ont soif, mais pas simplement dire, venez à moi, et puis quoi? Et je vous désaltérerai. Il est celui qui veut désoiffer et donner de cette eau de la vie. Aujourd'hui, c'est Pâques, on parle de vie, on parle de vivant, et on fait référence particulièrement à la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi, ressuscité? Ça veut dire qu'il est sorti du tombeau. Ça veut dire que la mort n'a pas pu le garder. Ça veut dire que le diable et toute la puissance des ténèbres n'ont pas pu le garder dans le tombeau. Déjà, l'apôtre Pierre avait pu faire cette confession de foi dans Matthieu 16:16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est le Fils de Dieu, mais le Fils du Dieu vivant. Et parce qu'il est le Fils du Dieu vivant, il est la vie, il donne la vie. La mort ne pouvait le garder. Parce qu'il est le principe de la vie est en lui, c'est par Jésus que nous avons la vie, et cette vie-là, et c'est ce qui fait toute notre joie et ce qui nous remplit de zèle ce matin, c'est que cette vie est plus forte que la mort. Si Jésus était resté au tombeau, il y aurait de quoi être découragé, il y aurait de quoi être triste, et il y aurait plus d'espoir. Mais parce que Jésus est ressuscité, quel formidable espoir de dire que rien, ne peut nous séparer de l'amour de Christ, que rien n'est plus fort que la vie que nous avons en Jésus. La mort n'a pu le garder au tombeau. La fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection, et on peut noter ce mot, résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Il n'y avait pas il est ressuscité après? Non? Ah, là ils l'ont manqué, les jeunes, là. Jésus est vivant! Ah, bon, alléluia! La fête de Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Et qu'on ne l'oublie pas, mais pour les chrétiens, la résurrection de Jésus, c'est tous les jours. Non? La vie, on n'est pas vivant une fois par an. Non? Je suis vivant une fois par an et le reste du temps, je fais comme la marmotte, je dors pendant tout l'hiver, ou comme l'ours, on va hiberner. Non, nous sommes vivants. J'espère que celui qui est assis à côté de vous est bien vivant, qu'il n'est pas en train de dormir ou somnolé. Il y a la vie en Dieu. Nous sommes vivants parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a donné la preuve de sa résurrection. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Qu'on puisse comprendre là que c'est une victoire. Il y a eu un combat. Il y a eu un enjeu, mais Jésus a vaincu la mort. Amen. Comprenez bien que le diable, lorsqu'il est rentré dans Judas, lorsqu'il a tout manigancé pour que Jésus soit crucifié, où il manipule les foules pour que, comme on l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure, il lève le poing en disant « crucifie-le ». Pour le diable, c'était sa victoire. Vous savez, est-ce que le diable est bête? La Bible nous dit que c'est le malin. Mais comment le diable a pu, alors qu'il est aussi malin, amener toutes ces choses? Parce que pour lui, dans sa sagesse, sa folie, ça dépend ce qu'on regarde, mais dans sa conception des choses, pour lui, la victoire, c'était l'anéantissement de Jésus. D'ailleurs, certains aujourd'hui vont dire, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on a la victoire en Jésus? Il est mort. C'est ça une victoire? C'est ça un roi? Un roi qui meurt? Un roi qui est crucifié? Certains vont dire, mais comment est-ce qu'on peut parler de victoire alors que Jésus meurt entre deux brigands? Comment est-ce qu'on peut parler de triomphe, de roi? Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, alors que les Romains, les Juifs et puis toute la foule l'ont pris et l'ont crucifié? On va dire, mais c'est ça le Fils de Dieu? Et d'ailleurs, en ce temps-là, beaucoup sont venus au pied de la croix en disant, si tu es Fils de Dieu, ordonne aux anges de venir te chercher. Et puis qu'il y ait là un miracle, qu'il y ait là toute une armée céleste qui vienne anéantir les Romains. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et selon les paroles du prophète Ésaïe, Jésus a été comme cet agneau muet devant ceux qui le tombent. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit, comme un agneau qu'on mène à la bouche. Et d'ailleurs, devant Pilate, Jésus pourra dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne prend la vie à Jésus, il la donne. Il la donne pour nous. Il la donne pour chacun d'entre nous. Il la donne pour vous. Comprenez que, de par notre nature pécheresse, à cause du péché, à cause de ce qu'il y a de mauvais en nous, nous étions coupables, condamnés à mourir. Et Jésus est celui qui a pris sur lui le poids de notre condamnation. Il est celui qui a pris sur lui notre culpabilité, afin que nous ne soyons plus perdus, que nous ne soyons plus coupables, mais que en lui nous ayons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et quand on réalise ces choses, on réalise que c'est tout un triomphe. Que quand Jésus meurt, alors qu'il était coupable de rien, lui le juste, lui le pur, qui accepte de mourir à notre place, en substitut, il prend ma place afin que en lui, je sois pardonné. Il a payé pour chacun d'entre nous. Le diable amène Jésus à la mort. Et laissez-moi vous dire qu'une fois que Jésus est au tombeau, toute la puissance des ténèbres est là pour garder cette pierre roulée. Comprenez bien que le diable a entendu quand Jésus parlait de résurrection, parce que Jésus l'avait annoncé à ses disciples. Et il y avait là toute la puissance des ténèbres. Ce n'était pas une petite bataille, c'était la grande bataille, si j'ose dire les choses ainsi. Mais il a été vaincu. Il a été livré en spectacle. Et par sa résurrection, Jésus atteste qu'il est plus fort que la mort, que le diable est vaincu, et que si nous nous confions en lui, et si nous sommes de son bord, et si nous sommes à son côté, la puissance de Dieu, de vie qu'il y a en lui, elle est pour nous. Et nous n'avons rien à craindre. Jésus a vaincu la mort, et sa vie nous donne la vie. Et comprenez que quand on dit « sa vie nous donne la vie », il s'agit de la même vie, de la même nature de vie. Nous sommes sauvés par sa vie. Nous savons la vie reçue en Dieu. Regardez en ce qui concerne Adam. Adam, il y en a qui ont vu la vidéo L'Espoir cette semaine? Oui. Oui. Adam est devenu un être vivant. Et de quelle manière Adam est-il devenu un être vivant? Lorsque Dieu a soufflé sur cette masse glaiseuse. Non? À peu près. Et c'est par le souffle de Dieu, et ce mot « souffle » a toute son importance, c'est par le « roi » de Dieu, par l'Esprit de Dieu, c'est le même mot, le vent, le souffle, l'Esprit. C'est par ce souffle de Dieu que Adam devient un être vivant. Il est vivant, Adam, parce que Dieu lui a donné la vie par son propre souffle. De la même manière aujourd'hui, nous avons la vie. Et je parle de cette nouvelle vie, comme une nouvelle naissance. Je parle de cette vie nouvelle. Nous l'avons au travers d'un souffle, au travers de l'action du Saint-Esprit en nous, qui vient nous faire passer de la mort à la vie. Quand nous recevons Dieu comme sauveur, quand nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, quand nous disons « Jésus, sois mon maître et mon sauveur », quand nous disons « Viens faire ta demeure en nous », et Jésus a dit « Le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure dans celui qui accepte, dans celui qui croit », eh bien, par son esprit, il vient mettre en nous la vie. Et nous devenons un être vivant. Vous allez dire « Oui, mais on est tous vivants là, puisqu'on est là ». Comprenez qu'il y a deux natures de vie. Il y a la vie biologique et il y a la vie éternelle. On peut être vivant en chair et en os et pourtant être mort pour l'éternité. Mais Dieu a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie, nous dit l'apôtre Jean. Et dans cette dernière phrase, par la nouvelle naissance, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est par cette nouvelle naissance. Est-ce que tout le monde ce matin peut faire le point sur sa vie et dire, c'est vrai, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Et c'est par la nouvelle naissance. Peut-être quelqu'un dit, pour quelqu'un ce matin, dira, mais c'est nouveau ces choses et je ne comprends pas. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est cette vie de Jésus ressuscité, qui veut nous être communiquée, afin que nous ne soyons plus morts, coupables, condamnés à mort, mais que nous soyons graciés, vivants, pour une vie éternelle. Par la foi dans le nom de Jésus, nous recevons cette vie. Comprenez que pour recevoir cette vie, il est nécessaire de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître déjà qu'on est mort. Comment recevoir la vie si on est persuadé qu'on n'en a pas besoin? Comment recevoir le pardon si on est persuadé que l'on n'est pas coupable? La première chose, la première étape, c'est de réaliser que l'on est coupable, que l'on est mort, et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on reconnaît ces choses, quand on reconnaît ces choses, et qu'on dit « Seigneur, viens, j'ai besoin de salut, j'ai besoin de vie ». J'ai besoin de passer de la mort à la vie. Quand on croit simplement et quand on met notre foi dans le nom de Jésus, Fils du Dieu vivant, eh bien, par son esprit, il veut nous conduire de la mort à la vie. C'est ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Dans Romains 8, et ce verset est important, Romains 8, 11, Et si vous avez une Bible, je vous encourage à entourer ce verset et à le souligner, à mettre un signet, ou apprenez-le par cœur aussi. C'est bien d'apprendre des versets par cœur. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont arrêté d'apprendre des versets par cœur depuis les 40 jours. Ben, peut-être pour cette semaine, ça vaudrait la peine d'essayer de retenir celui-ci au moins. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'on réalise ces choses? Il est dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est celui-là même qui habite en nous. Quand par cette nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Dieu et nous disons « Jésus, viens en moi, habite en moi, je te reçois, viens dans ma vie, je te donne ma vie », comprenez que c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Je faisais référence tout à l'heure à cette victoire phénoménale et dire que ce n'était pas une petite affaire, c'est une grande victoire. Et cet Esprit victorieux, celui qui a rendu la vie à Jésus, c'est celui-là même qui veut habiter dans votre cœur ou qui habite en vous déjà. Est-ce qu'on réalise ce matin que ce n'est pas un petit esprit qui habite en nous, que ce n'est pas un peu de la présence de Dieu qui habite en nous, mais qu'à tous ceux qui ont cru, qui ont reçu Jésus comme sauveur, c'est toute la victoire de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en nous. Alléluia! Parce qu'il y a de la vie ce matin. Est-ce qu'on dit des fois quand on va quelque part et puis il n'y a pas d'ambiance, on dit « Ah, c'est mort ici. » Non? Quand on va quelque part, on dit « Ah, c'est mort ici. » Puis des fois, on va quelque part, on dit « Ah, il y a de la vie là. » Non? Des fois, on voit un enfant qui bouge. « Ah, il y a de la vie là. » Des fois, les parents trouvent qu'il y en a un peu trop, mais il y en a. Il y a de la vie. Concernant les choses de Dieu, est-ce que ça ressemble à la mort ou est-ce que ça ressemble à la vie? Souvenez-vous ce que les anges pouvaient dire à ces femmes dans Luc 24. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je résiste, je lutte. C'est le verset que j'étudie à l'université. Allez, je me lance, je vais vous le dire en grec. Tizetete ton zanta metaton netron. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais passer 10 ans de ma vie sur ce verset. Vous comprenez que je peux le savoir par cœur, enfin même sur un mot, sur le mot vivant. Comprenez que Jésus est vivant et qu'il ne s'agit pas d'aller le chercher parmi les morts. Peut-être que quelqu'un ce matin réalise que oui, durant ces dernières années, c'est parmi les morts que tu as cherché Jésus. C'est parmi ceux qui sont morts. C'est parmi, peut-être des gens instruits, peut-être des gens intelligents, peut-être des encyclopédies, que sais-je. Mais il n'y a pas la vie. Comprenez qu'on peut connaître beaucoup de choses, on peut même parler de Dieu, mais il n'y a pas la vie. C'est pas parmi les morts que tu trouveras la vie. C'est parmi les vivants. Et j'espère qu'au milieu de nous, il y a des vivants. Et qu'il y en ait plus encore. Et que les vivants ne s'endorment pas. Parce que s'endormir, vous savez, quand quelqu'un dort, on ne sait plus trop s'il dort ou s'il est mort. Non? Entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort, il y a très peu de différence. On ose croire qu'il dort, hein, plutôt qu'il est mort, quand vous voyez quelqu'un dormir. Mais la vie. Et Jésus dit, cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Et il faut reconnaître que dans notre société, il y en a qui cherchent la vie, qui ont besoin de vie, qui ont besoin d'espoir, et qui vont chercher à toutes sortes d'endroits, toutes sortes de séductions, toutes sortes d'idées. Mais ce n'est pas parmi ces gens, pense à Raël ou à je ne sais pas qui d'autre encore, comprenez qu'il y en a, ils vont chercher partout, dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de philosophies, mais là, il y a la mort. Celui qui est vivant, c'est parmi les vivants qui se trouvent, auprès du Dieu vivant. Mon âme a soif de vie, mon âme a soif du Dieu vivant. L'homme est devenu un être vivant par le souffle de Dieu, et c'est auprès de ce souffle de Dieu qu'il faut aller chercher la vie. Et ce matin, si tu réalises que dans ta vie, il y a beaucoup de morts, et tu dis, je suis un être vivant de manière biologique, mais spirituellement parlant, ça ressemble plus à la mort qu'à la vie. Laisse-moi te dire que la vie, elle vient de Dieu. Et si ce matin, simplement, tu oses ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, remplis-moi de ta vie, je veux recevoir ta vie. Si tu te repens, si tu reçois Jésus comme sauveur, c'est la vie de Dieu qui va venir en toi. Et je m'adresse aux chrétiens en disant, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce qu'on réalise la portée de ce verset? On va dire ça, c'est Paul qui dit ça. Mais est-ce que nous, on est capable de dire la même chose? L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est ma vie. Est-ce que vous vivez pour Christ? Est-ce qu'il est votre vie? Et l'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain. Alors peut-être que si on ne fait pas attention et puis qu'on traduit ça vite, la mort m'est un gain, ça veut dire, bon, la mort, c'est pas trop grave. Non, c'est pas ce qu'il dit là. La mort m'est un gain. C'est quoi un gain? C'est quand on gagne. Non? Quand on gagne la loterie, la tombola, c'est le gain. Mais là, l'apôtre Paul dit, le gain pour moi, c'est la mort. Si je meurs, je gagne. Ah, vous n'avez pas l'air convaincu là. Dites-moi, quand vous allez mourir, vous allez perdre ou vous allez gagner? Certains vont dire, ben, je vais perdre la vie. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce qu'il y a mieux ou moins bien? Ben, s'il y a mieux, on gagne. Peut-être que ceux qui restent gagnent moins parce qu'ils ont perdu un être cher, et c'est vrai. Mais pour ceux qui franchissent cette limite et qui vont de l'autre côté, s'ils sont sauvés, ils gagnent. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, il perd beaucoup. Parce que ce sera le temps de rendre des comptes. Mais celui qui a fait la paix avec Dieu, la mort met un gain. Seigneur, je veux gagner. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mourir vite? En tout cas, on gagne. Mais présentement, on a du travail à faire dans cette ville. Et ce n'est pas... Vous savez, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on regarde d'une manière égoïste et en pensant qu'à nous-mêmes, on a tout intérêt à aller de l'autre côté le plus vite possible. Pas par nos propres moyens, mais dire « Seigneur, reprends-moi parce que je ferai beaucoup mieux de l'autre côté. » Et quand on réalise le monde dans lequel on est, quand on réalise tous les besoins, nos voisins, nos amis, les collègues de travail, tous ceux qui nous entourent, ceux qui habitent cette... La grande région de Drummondville, on dit là, il y a du travail à faire. Et Seigneur, si pour moi, il est préférable de mourir et la mort m'est un gain, il y a des gens qui vont perdre beaucoup quand ils vont mourir, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec toi. Et que nous soyons des ambassadeurs, des missionnaires, des proclamateurs de cette bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent, et qu'on profite peut-être de cette occasion de Pâques pour dire, tu sais, la vie de Dieu, c'est plus que de la religion. C'est plus qu'aller à l'église une fois par an parce que c'est le jour de Pâques. C'est plus que de faire une petite prière de temps en temps. C'est une vie qui vient nous saisir et qui nous rend vivants. Autrefois, nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. On raconte à votre sujet... Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez abandonné les idoles, c'est-à-dire ceux qui sont morts, pour servir celui qui est vivant et vrai. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être à la fois serviteur des idoles et de la mort, et serviteur du Dieu vivant et Dieu la vie. Et si quelqu'un ce matin a un cadavre dans sa maison, ça sépare toi de ce mort. C'est la vie qui doit prendre place dans ton cœur. Comprends ce que vous me comprenez bien. Que des fois, on peut avoir un mort. Il y a quelqu'un qui avait vendu une maison. Et il avait mis une petite clause. Vous savez, des fois, il y a des genres de clauses loufoques. Il y en a une petite clause. Je vends la maison, je vends tout, sauf un clou. Et il dit, sauf le clou qui est là. Il y avait un clou qui... Il vend la maison, sauf un clou. Et les nouveaux propriétaires disent, il est un peu, celui-là, un peu spécial. Un clou, ça vaut pas un clou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, de toute façon? Allez, on accepte, il signe le contrat devant le notaire. Il a vendu sa maison, sauf un clou. Ah, ils profitent de la maison, ils l'ont eu à un bon prix, ils disent, c'est bien, on est bénis, on a une nouvelle maison. Et puis, il y a l'ancien propriétaire qui frappe à la porte, qui dit, je peux voir mon clou? Ben oui, c'est son clou. Il rentre voir son clou, il l'astique un peu, puis il laisse son chapeau sur le clou. Ben, c'est son clou. Puis il repart. Quelques temps plus tard, il revient, il reprend son chapeau. Et quelques temps plus tard, il revient, mais il revient de la chasse. Il avait attrapé un lapin et il laisse le lapin sous le clou. Mais pas un jour, pas deux jours, pas trois jours, quelques temps. Imaginez un mort dans la maison, l'odeur que ça peut produire. Et là, les nouveaux propriétaires ont réalisé qu'un clou, c'était un clou de trop. Et que ça venait leur empoisonner la vie. Parce qu'ils avaient laissé juste une petite affaire. La mort était rentrée dans la maison. Comprenez qu'avec Dieu, des fois, il y a des petites affaires que le diable essaye de négocier avec nous en disant, t'es chrétien, c'est bien. Tu es nouveau chrétien, tu rentres dans la famille de Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu veux te faire baptiser, c'est bien, continue comme ça. Puis comme si le diable dit, écoute, on va garder juste une petite affaire entre nous, c'est pas grand chose, ça va pas te gêner, c'est juste un clou. Comprenez que des fois le diable a des petites affaires comme ça. Peut-être quelqu'un dira, c'est vrai que dans ma vie, il y a un petit quelque chose que j'ai pas lâché, que j'ai pas cédé, et que le diable a toujours. Et ça, ça peut vous empoisonner la vie. Ou peut-être qu'il n'y a qu'un chapeau qui est sur ce clou pour l'instant. Mais un jour ou l'autre, ça peut être la mort. Et qui va venir rendre toute la maison inhabitable à cause d'un clou. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La même manière ce matin, abandonnez les clous, les idoles, ce qui n'est pas bon. Qu'il n'y ait pas de concession, qu'il n'y ait pas de compromis. Je crois qu'on en a parlé dimanche passé. Et vivez pour ce qui est vrai, sans compromis, dans la sainteté. En conclusion, dans 1 Timothée 3,15, l'apôtre Paul dit, « Voilà toutes sortes de consignes, de directives, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. » Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas l'Église d'un Dieu mort. Nous ne sommes pas l'Église d'une religion. Nous ne sommes pas l'Église qui appartient à telle ou telle dénomination. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et comprenez que quand nous disons « Nous sommes l'Église du Dieu vivant », il n'y a rien d'exclusif, comme si les autres ne l'étaient pas. Il y a d'autres églises dans la ville, à Drummondville, qui sont aussi l'Église du Dieu vivant. Et ensemble, nous formons une grande famille. Mais si j'insiste sur ce point, c'est pour dire que nous réalisons ce matin que nous ne sommes pas un club social. Nous ne sommes pas une bande d'amis réunis ensemble pour avoir du bon temps. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, pour servir le Dieu vivant, pour honorer le Dieu vivant, pour marcher dans les voies du Dieu vivant, mais aussi pour entendre la voix du Dieu vivant, pour le voir agir au milieu de nous, et pour proclamer à tous ceux qui sont morts, il y a la vie au milieu de nous. Cette vie s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a la vie. Si quelqu'un est mort ce matin spirituellement, sache que la vie est là, juste à côté de toi, qu'il s'agit simplement d'un pas de foi, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Si quelqu'un est chrétien depuis bien longtemps, puis qu'il réalise que de loin, si quelqu'un le regarde, il ne sait pas trop s'il est mort ou s'il dort, quand les autres ont un regard sur nous, quand nos voisins nous regardent, Est-ce qu'il voit quelqu'un, disons, il est mort, il dort, ou est-ce qu'il voit quelqu'un de vivant? Est-ce que vous me suivez? Parce que quand quelqu'un vous voit, il dit, mais il y a la vie en lui. Ou alors la vie est tellement cachée profondément qu'on ne sait pas trop si vous dormez ou si vous êtes mort. Vous me suivez? Que cette vie qui est en vous, la puisse, c'est le printemps, hein, il faut que ça se ranime là, puis que ça reste, hein, pas que ça s'endorme en hiver, mais que cette vie soit là, qu'elle nous anime, qu'elle nous remplisse de zèle, de force et d'ardeur pour servir le Dieu vivant. J'ai invité les musiciens à venir à prier quelques instants. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus est vivant. Vous connaissez celui-là? Pas sûr. Alléluia. Alléluia. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence ce matin encore. C'est la vie que tu nous as donnée. Ce sont les vivants qui te louent. Tu es le Dieu des vivants. Seigneur, merci pour cette vie qui habite en nous. Pensons, Seigneur, à ceux qui peut-être ce matin se questionnent et se posent des questions en disant, mais est-ce que je suis vivant? Seigneur, tu vois ceux qui ont l'impression d'être morts spirituellement. Et tu les condamnes pas ce matin. Tu pointes pas le doigt vers eux avec un air de condamnation. Mais tu tends ta main parce que tu veux amener à la vie celui qui est mort, simplement par la foi, par la repentance. Seigneur, nous voulons prier pour eux ce matin afin que de ce lieu, ils reçoivent la vie de ta présence. Seigneur, tu vois ceux qui te connaissent depuis longtemps peut-être et qui, en apparence, en extérieur, ressemblent peut-être à quelqu'un qui est mort ou du moins la vie se manifeste que timidement. Seigneur, nous disons, remplis-nous de ta vie comme tout à nouveau. Que ton esprit nous immerge, nous submerge. Soyons remplis de vie, du Saint-Esprit en nous. Et que nous puissions communiquer cette vie à tous ceux qui nous entourent. Être un parfum de vie pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Alléluia. Amen. Restez quelques instants dans la présence de Dieu, dans la prière. J'aimerais donner l'occasion ce matin à ceux qui n'ont jamais fait cette expérience et qui disent « Dans ma vie, il y a plus de mort. Dans mon cœur, il y a plus de mort que de vie. » Je vous invite à faire ce pas ce matin de cette décision et de dire « Je veux décider de vivre avec Jésus, d'être du côté de la vie plutôt que d'être du côté de la mort. » Cette vie, ce n'est pas vous qui pouvez la produire. C'est Dieu qui la déverse dans votre cœur. Lorsque vous ouvrez simplement votre cœur et que vous dites, Seigneur, viens en moi. Sois le maître de ma vie. Je réalise que je suis perdu, que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre la décision de vivre avec toi. Je vous invite à lever la main afin qu'on puisse vous voir et qu'on puisse prier ensemble. Si quelqu'un ce matin veut dire, moi, je veux donner ma vie au Seigneur. Je ne veux pas marcher dans la mort. Je ne veux pas être mort spirituellement. Mais je veux vivre. Est-ce que quelqu'un ce matin réalise qu'il n'y a pas la vie en lui et il veut prendre cette décision? Il y a une main qui s'est levée, vous pouvez la baisser, madame. Est-ce que quelqu'un d'autre ce matin dit, moi j'ai besoin que Dieu me remplisse de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Tu vois ceux qui dans leur cœur, cette âme qui dit, Seigneur, je veux vivre avec toi. Seigneur, il est bon de savoir que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous donnes la vie. Et ce n'est pas un peu de la vie, c'est toute la vie de Dieu, par l'Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts. Merci, Seigneur. Oh, dans le ciel, il y a de la joie et il y a de la vie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, merci pour ceux qui se tournent vers toi, qui passe de la mort à la vie dans ce lieu, quel privilège de pouvoir être une église qui enfante la vie. Merci pour ceux qui sont passés de la mort à la vie, une nouvelle naissance durant ces dernières semaines. Merci pour cette dame, pour ceux qui vont encore passer de la mort à la vie, ce soir ou dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Seigneur, nous voulons être vivants encore davantage et communiquer cette vie qui vient de toi. Et qu'à ton nom seul, revienne toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.